Dimanche dernier, sur Radio J, la Première Ministre a qualifié le Rassemblement National d'héritier de Pétain à l'idéologie dangereuse. Mercredi, en Conseil des ministres, le Président aurait lancé une pique, sans la nommer, en précisant qu'il ne fallait pas combattre l'extrême droite en utilisant des arguments moraux éculés. Emmanuel Macron dément devant les caméras à Bratislava. Mais on a l'impression, Gérard Carreau, que ça sent quand même de plus en plus le sapin à Matignon.
Oui, pas forcément. C'est pas mon sentiment. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, c'est vrai que cet échange, ça manque d'élégance. Si ça s'est fait comme vous venez de le raconter, ça manque d'élégance de la part du chef de l'État. Mais sur le fond, proposons-nous de regarder plutôt le fond. Sur le fond, c'est, me semble-t-il, plus un jeu de rôle qu'une opposition politique. Le jeu de rôle, c'est simple. Madame Borne, de par son passé, sa sensibilité de fille de déportée, il est normal qu'elle ait... Dès qu'on parle de cette période de Pétain, puisque Pétain était le chef de l'État français à cette époque, elle est très sensible à ça. Et en plus, elle a des convictions, elle a eu tout au long de sa vie des convictions socialistes. Même si elle n'a pas appartenu véritablement au Parti socialiste, elle a travaillé pour des gestions socialistes, etc. Donc, qu'elle soit sur cette ligne-là ne me choque pas et ne me surprend pas. Macron, lui, c'est différent. Il n'a pas d'histoire personnelle au sens... de cette histoire tragique de Madame Borne. Il n'a pas d'histoire personnelle en politique. C'est un homme qui est arrivé, il y a eu les événements qui l'ont propulsé et son talent. Mais pour lui, c'est un énarque à profil financier, essentiellement. Et il a aujourd'hui une situation particulière. Il n'a pas de majorité et il faut... Alors, il rame. Il avait inventé pendant, et ça a tenu pendant, pendant un quinquennat, il avait inventé le en même temps. Là, il a inventé la stratégie. Moi, je drague à droite, et il le fait dans un certain nombre de domaines, et Madame Borne me tient la gauche pendant ce temps-là. Donc, je dis, à votre question, je réponds d'un mot, ça va durer au moins jusqu'à Noël.
Michel Cotin.
Moi, j'en suis moins sûr sur le pronostic. Donc, simplement, pour revenir sur le débat, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant. D'abord, je trouve que recadrer quelqu'un de cette façon-là, franchement, c'est humiliant et inutile.
Si c'est le cas,
si on a quelque chose à lui dire, on lui dit peut-être en face à face.
Il y a peut-être...
Mais au fond, il y a une vraie double vision, et c'est peut-être une vision générationnelle. C'est vrai qu'à un moment donné, pour nous, nos âges, le Front National représentait quand même, effectivement, la fin de Vichy, un certain aspect de la collaboration. Beaucoup de gens venaient de là. Bon, mais maintenant... Il est vrai que ça a changé. L'électorat du Front National a été multiplié par je ne sais pas combien. On ne peut pas dire que tous les gens du Front National sont des fachos ou sont partisans de Pétain. Donc je trouve qu'à la fois, les deux, c'est un perdant-perdant, cet échange entre le président et la Première ministre. Perdant-perdant parce qu'ils se sont opposés sur deux aspects et perdant-perdant parce que l'un est quand même dévalué. Si c'est vrai, encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y ait tellement de démentis, et l'autre n'a rien gagné.
Charles Villeneuve.
Sur cette question-là, rapidement, je pense que Mme Borne a historiquement raison, mais politiquement tort aujourd'hui, et que le président de la République a historiquement tort, mais politiquement, aujourd'hui en tout cas par rapport au RN, il a raison politiquement.
Oui, moi je vais vous dire comment ça s'est
Catherine
passé.
Catherine Ney.
Madame Borne va à Radio J. Elle est interviewée par Frédéric Aziza. Et c'est lui qui vient la chercher pour lui dire, parce qu'évidemment, elle s'inquiète de la montée du Rassemblement National, et elle dit, mais oui, ils peuvent gagner en 2027. Alors, il lui demande, est-ce que le Rassemblement est héritier de Pétain? Alors, elle dit, mais oui, ben oui, il est héritier de Pétain. Voilà, bon, voilà, c'est ça. Et là, le journaliste ajoute, et Marine Le Pen? Ah, elle dit, il n'est pas... Il ne suffit pas de changer de nom pour changer de truc. Bon. Donc là, elle se trompe. Elle a répondu à des questions. Ce n'est pas elle qui est venue dire, vous savez, et puis voilà, Pétain. Elle a répondu, il est venu la chercher. Et elle a tort parce que Marine Le Pen, je veux dire, elle ne peut plus être comparée. Elle a rompu avec son père. Elle l'a viré du parti. Et il est dans mauvais état et je crois qu'il pourrait disparaître. Moi, je pense qu'elle fera tout pour que ses obsèques soient les plus discrètes possibles. Donc, elle a dit ça. Puis le président, alors version officielle de l'Élysée, il voulait reparler, recadrer, parce qu'en ce moment, après Madame Meloni en Italie, et puis ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire l'alliance aux élections cantonales, enfin régionales, de la droite et de l'extrême droite, attention, danger, lui aussi, il y a un danger, et il dit, mais pour les combattre, il ne suffit pas, voilà. Alors, il n'a pas prononcé le mot de Pétain. Il fallait d'abord que les ministres tous aient entendu l'interview de Radio J. Ils n'étaient pas tous. En tout cas, d'où c'est parti, c'est qu'il y a au moins 7-8 ministres, ceux qui n'aiment pas Madame Borne, celle qui les traite de connards en privé, et quand il les reçoit ou tout ça, et qui est très...
Qui traite de connards?
Eh bien, Madame, parce qu'il se trouve que la Première ministre a quelquefois un langage un peu ordurier.
Ah bon?
Oui, bon, ordurier, très bien, elle leur parle quoi?
Parce que connard, c'est ordurier.
Bon, mais écoute, si toi...
C'était l'insulte préférée de Jean Dormesson.
C'est sympathique. En tous les cas, c'est une sympathie qu'ils supportent peut-être moins bien que toi. Mais en tous les cas, ils ont téléphoné aux journalistes pour dire attention, qu'est-ce qu'elle a été recadrée. Alors voilà, vous voyez comment ça s'est passé. Et c'est sorti. Attendez, mais moi je vous raconte.
C'est le crime de la Rue Express.
Oui, non, mais c'est long.
Couteau.
Voilà. Comment?
C'est long.
C'est long,
c'est
mais
long, quoi.
Oui.
Mais si on raconte toute l'histoire, on va remonter à
tous ceux qui ont regardé la séquence. C'est très intéressant parce que tu as bien fait de le dire. Tous ceux qui ont regardé la séquence, moi je l'ai entendu d'abord, et puis après j'ai regardé trois fois de suite.
Oui,
la
vidéo. Oui.
On sent bien qu'elle s'est fait d'une certaine manière un peu piégée. Parce que Madame Borne, elle est tombée là où elle penche. Il suffit d'une femme dont le papa s'est suicidé après avoir été dans les camps. On lui parle de Pétain, elle ne va pas vous dire c'était quand même formidable l'époque. Voilà. Bon, il est bien évident qu'il a sollicité le journaliste, pour le coup. C'est pas par hasard, il a sollicité et elle est tombée dedans. Elle aurait pas dû y aller, mais elle y est allée parce que finalement, c'est ce qu'elle pense.
Parce que dans cette interview de Radio J, à un moment donné, Madame Borne dit « Je n'ai jamais entendu Marine Le Pen revenir sur le passé et excuser, enfin en tout cas condamner le passé du FN et du RN ». C'est ça qu'elle dit aussi. C'est pour ça qu'on s'est posé la question sur Marine Le Pen et l'héritage.
C'est ce qu'il dit, mais c'est que l'interview de Radio J. C'est pour ça que je résume peut-être trop rapidement quand je dis que historiquement elle a raison, et c'est vrai, au moment de la création des rassemblements nationaux,
il y a pas mal
de compagnons qui sont héritiers directement d'une attitude pétainiste, c'est vrai. Mais le Rassemblement national aujourd'hui, puisque ça a changé de nom, elle en reste au Front national. Mais le Rassemblement national aujourd'hui, notamment les dernières élections, ont montré qu'il y a un renouvellement assez considérable
sinon,
de l'électorat qu'on ne peut pas assimiler de toute façon aux pétainistes.
Quand les gens votent pour le Rassemblement national, ils disent pas on vote pour Pétain. D'ailleurs, la plupart ne le connaissent pas.
Au moment de la présidentielle, Xavier Bertrand disait moi, je continue à dire le Front national. C'était il n'y a pas si longtemps que ça.
Pierre, à 4% des électeurs, on peut être composé de pétainistes. À 42% des électeurs, c'est ridicule de parler d'un parti pétainiste.
Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est ce que disait tout à l'heure Gérard Carrérou. Gégé.
Comment ça, Gégé?
Gégé, on l'appelait Gégé. Oui. Non, mais pourquoi? Parce que le couple de l'exécutif, le président de la République et sa première ministre se partagent ce jeu de rôle. L'une gère l'aile gauche du parti et l'autre a pris en charge l'aile droite du parti. Parce qu'il a besoin de ces voix d'appoint des Républicains. Oui, on l'a vu sur la loi Liotte et sur l'abrogation, d'ailleurs.
Mais là, tu sous-entends qu'il y aurait comme un jeu de rôle, mais déjà pensé entre eux.
Il s'est écrit au fur et à mesure du mouvement.
Mais ça s'écrit au fur et à mesure. D'ailleurs, qui aurait pensé aujourd'hui que le problème, alors qu'il n'y a pas de majorité, qu'il y a une majorité relative, qu'il y a aussi un parti Renaissance coupé en deux entre l'aile droite et l'aile gauche.
Et quand on parle du remplacement de Madame Borne,
eh bien, l'aile gauche du parti Renaissance veut absolument la garder et la soutient.
Alors, on en parle juste après. 10h17, on revient avec les grandes voix. À tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Suite des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On parlait de Matignon, on parlait des hypothèses, on parlait de Madame Borne. Alors qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron continue avec Madame Borne ou est-ce que on s'en réfère aux noms qu'on cite Le Cornu, de Normandie, Darmanin, on parle maintenant de Richard Ferrand.
Moi, j'ai déjà répondu. Alors, je m'abstiens là parce que j'ai déjà répondu.
Catherine
pour moi, elle reste au moins jusqu'à Noël.
Bon.
Parce que justement, il aura besoin d'elle jusqu'à Noël. Il n'aura pas d'alternative.
Il ne doit pas être content. Voilà. Il ne doit pas s'entendre formidablement avec elle. Je pense qu'il y a souvent...
Enfin, il n'était pas content avec Edouard Philippe. Il n'est pas content avec
Castex. Il était très heureux. C'est difficile d'être Premier ministre. On peut se dire, étant donné tout ce qu'on pense...
C'est pas nouveau dans l'histoire.
Ben justement, c'est pour ça qu'il en change.
Michel Cotta.
C'est pour ça qu'il en change. Moi, je crois qu'il en a besoin pour le moment d'Elisabeth Borne et qu'en plus, elle a une grande qualité. C'est effectivement de dire aux gens carrément ce qu'ils pensent alors que la vérité, toujours selon Macron, est toujours plus difficile. Donc, elle est cash. On sait.
Si elle traite les gens de connards, elle est cash.
C'est important. C'est important. Il a besoin de quelqu'un comme ça.
Charles Villeneuve. Je ne me poserai pas la question de cette manière. Oui. Madame Borne ou pas Madame Porte. Quelle personnalité de la majorité actuelle, majorité relative, ou même d'ailleurs, y a-t-il aujourd'hui qui pourrait faire bouger les lignes et ramener une majorité absolue? Vous en voyez, vous?
Catherine. Non, on n'en voit pas, mais il faut du sens politique, de la bienveillance pour organiser des trêves momentanées, vous voyez, sur un projet ou sur l'autre. Bon, qui peut faire ça? Qui est capable de parler à tout le monde? Bon, et puis, quand on veut, Madame Borne a dit, je ne veux ni des voix de l'extrême gauche, ni des voix de l'extrême droite. Donc, elle ne veut négocier qu'avec les LR, finalement. Ça n'a pas très bien marché marché parce que on voit bien aussi que et c'est ça c'est dans tous les partis ça se passe comme ça en tous les cas à l'Assemblée nationale le parti même qui le tient personne il y a une aile qui il y non. avait une aile contre le projet non. Alors qu'ils étaient tous au départ tous les LR ils étaient pour le retraite à 65 ans vous voyez
non mais cela étant il y a une démonstration qui a été faite changer Madame Borne et la remplacer par exemple par Darmanin ou par le
Normandie
maire.
Puisque c'est de Normandie
ou de Normandie enfin en tout cas moi je m'arrête à Darmanin et à le maire pour l'instant de Normandie c'est encore une autre affaire mais si je peux terminer ça changerait en quoi ça changerait le centre de gravité de la majorité? Ça irait plutôt vers la droite.
Oui.
Et ça mettrait fin à l'idée du dépassement des clivages. Ce que ne veut pas Emmanuel Macron, manifestement, parce qu'il tient à son histoire depuis le départ.
Ni gauche, ni droite.
Ni gauche, ni droite, etc. Mais il y a quand même un rapprochement avec les Républicains, texte par texte. On l'a vu sur la loi Liotte, c'est-à-dire qui souhaitait abroger, imposer l'abrogation de la loi sur les retraites. Il n'y a pas d'accord global avec LR, mais il y a possiblement un accord texte par texte.
Oui, ils ont sauvé quand même les Républicains, pour aller abonder dans le sens de ce que vient de dire Charles Villeneuve, ils ont sauvé deux fois déjà la vie du gouvernement de Madame Borne. La première, c'est au moment de la motion de censure. Oui. Bon, il n'y a pas eu toutes les voix, mais il y en a eu 8 quand même qui ont sauvé le gouvernement. Et les Républicains sont là-dedans. Et deuxièmement, sur le vote contesté, que d'aucuns traitent de magouille, c'est un peu d'ailleurs mon sentiment, de magouille au moment du vote de la commission... où des Républicains qui étaient censés pas voter ont été changés. Bon. On peut dire deux fois de suite, les LR ont été la béquille du gouvernement de Mme Borne. Alors après, est-ce que ça ira au troisième stade ou pas? On verra.
Enfin, sur le clivage gauche-droite, vous vous souvenez de ce que disait François Mitterrand concernant le centre? Le centre, il est ni de gauche, ni de gauche.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que pense Olivier Faure aujourd'hui. Moi, je voulais ajouter sur Elisabeth Borne qu'elle a une qualité importante, c'est qu'elle est respectée par les syndicats. Quoi qu'il se soit passé avant, et quoi que ce texte sur la retraite ait fait, en tout cas, on sent que les gens sortent, les représentants syndicaux sortent généralement en disant « Non, mais on a du respect pour elle, mais... » Donc c'est important quand même, dans une période où il y a pas mal de lois sociales à faire passer. Et ça, pour le coup, le président de la République n'a pas la carte qu'il lui faudrait pour gagner de ce
c'est
côté-là.
C'est pour ça qu'elle restera jusqu'à Noël. On oui, marque une pause Noël, et d'ailleurs. On va reparler justement de la proposition Liot et de ce qui s'est passé en commission des affaires sociales. Une minute pour vous dire que chaque samedi et chaque dimanche, Isabelle Morizet vous donne rendez-vous dès 13h sur Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est un entretien d'une heure où Isabelle recueille les confidences de son invité. Aujourd'hui, elle invite à Roland-Garros la footballeuse Marinette Pichon, dont le biopic Marinette sort en salle mercredi. Un film adapté de son livre « Ne jamais rien lâcher ». Rendez-vous donc à 13h sur Europe 1, la radio officielle de Roland-Garros. Et nous, on se retrouve dans un instant.
10h, 11h,
les grandes voix d'Europe 1.